voisine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Gros plan aujourd'hui sur la France des dynasties, non pas celle des rois de France, mais celle des fils et filles d'eux. Leurs parents sont comédiens, chanteurs, producteurs de cinéma, hommes politiques, capitaines d'industrie. Et il suffit à leurs enfants de venir au monde pour réussir à leur tour. Une réalité tellement ancrée dans les mentalités que finalement en parler semble au mieux inutile, au pire tabou. Et une enquête édifiante vient de paraître. Bonjour Aurore Gorius.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous publiez avec une autre journaliste d'ailleurs, Anne-Noémie Dorion, une enquête sur la nouvelle aristocratie française. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est ce que savent finalement tous les Français qui lisent Paris Match, oui, ou d'autres, ou qui regardent la télévision, oui, tout simplement. Aucune révélation fracassante sur les passe-droits des enfants bien-nés, si ce n'est l'ampleur du phénomène. J'ai pas compté exactement le nombre de noms, de patronymes qu'il,
oui,
y a dans votre livre,
beaucoup,
mais c'est énorme, plusieurs centaines. La France est champion du monde à ce sport-là, vous diriez ?
Alors, on a voulu faire un tableau général dans plein de domaines différents, en économie, en culture, en politique. Et effectivement, la France, notamment dans le domaine culturel, il y a beaucoup, beaucoup de fils et de filles d'eux maintenant au générique des films. En économie, il y a beaucoup de fils et filles d'eux à la tête des entreprises. Deux tiers des entreprises françaises sont des entreprises familiales, alors que aux États-Unis c'est 20%. Donc oui, la France a une logique dynastique très forte, et je pense que c'est vraiment ancré dans le fonctionnement aristocratique de la société française.
Également dans le studio des 7 milliards de voisins, Cédric Rio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Observatoire des inégalités, vous avez publié « Justice sociale et génération, pourquoi et comment ?» transmettre à un monde plus juste. Et puis, je suis très heureuse d'accueillir Pascal Paradou, que les auditeurs connaissent bien. Bonjour Pascal.
Bonjour Isabelle.
Oh, vous avez 20 ans de journalisme culturel, donc
tout à fait,
vous
mais à
connaissez
peu près
les secrets des tournages de cinéma, les planches au théâtre,
je les
vedettes.
Je ne veux pas vous décevoir, donc je connais tout.
Et chez vous, les voisins et les voisines, appelez-nous, dites-nous quels sont les privilèges des enfants nés de parents célèbres, quels que soient les milieux professionnels. Avez-vous le sentiment que ces enfants bénéficient de passe-droits pour réussir à leur tour dans la vie professionnelle ? Et y a-t-il un débat public sur le sujet dans votre pays ? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook. Salé, qui est à N'Djamena, au Tchad, qui nous dit « Sur le plan politique, ce sont souvent les fils d'eux qui héritent du pouvoir à cause de la malgouvernance, de l'absence de constitution dans le pays. Sur le plan sportif, ça marche aussi. Regardez le fils de Zidane. » C'est vrai, hein, vous ne parlez pas tellement des sportifs.
Peu, les trois fils de Zinedine Zidane se jouent au Real Madrid, hein, les trois.
Oui, mais alors attendez, le sport, il faut quand même marquer des buts, il faut marquer des points, il y a le chronomètre pour d'autres sports. Enfin, c'est des critères plus objectifs de réussite,
oui,
quand
oui,
même.
Alors, y a pas, c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire que vous avez aussi le fils de Youri Djurkaev, qui lui-même était un fils de footballeur. Il y a des dynasties dans le sport aussi, donc il y a des choses qui se transmettent dans les familles, aussi au niveau de l'entraînement, du mental, il y a des choses qui se transmettent dans les familles.
Et les fils peuvent changer parfois de sport, puisque le fils Noah ne fait pas tout à fait le sport de son père.
Il fait du basket,
ouais,
un très haut niveau en NBA, et Noah lui-même est fils de footballeur.
Après, il y a peut-être une hérédité génétique, hein. Il faut
peut-être
quelque chose dans les jambes, quand même.
Peut-être un peu.
Herman à Ouagadougou, il n'est pas toujours plaisant d'être pistonné. J'ai abandonné les études parce que je me sentais toujours poussée vers des ambitions qui ne sont pas les miennes. Voilà un témoignage honnête. Josiane à Kinshasa qui nous dit « Dans mon quartier, certains pensent que les enfants de médecins ne touchent jamais à la vaisselle ou ne prennent pas les transports en commun. Ils sont stupéfaits de les entendre parler en langue locale. Et c'est en fait une certaine pression psychologique d'avoir un tel statut. » Je pense que Josiane est fille de médecin et peut-être médecin elle-même, je ne sais pas. Gaël qui est à Lubumbashi. Alors lui, il lui est arrivé un truc incroyable. Il nous dit « Je porte le même nom de famille qu'un ancien directeur de la Banque centrale du Congo à Lubumbashi. » J'ai travaillé 2 ans en entreprise, j'ai été très respectée parce que je travaillais bien, mais surtout grâce à mon nom, on peut dire que j'ai été privilégiée. 2 ans plus tard, lorsque les responsables ont appris que je n'avais aucun lien familial avec cet ancien directeur de la Banque Centrale, tous mes privilèges m'ont été retirés. Heureusement que j'étais un bon élément dans l'entreprise parce que sinon il se serait débarrassé de moi. C'est incroyable, hein.
Oui,
imposteur malgré lui finalement, non, je ne sais pas. En tout cas, vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On parle des enfants bien nés, les fils et les filles d'eux aujourd'hui. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de ce jeune comédien de 37 ans. Il s'appelle Davy. Il a déjà reçu un Molière en 2014, qui est la récompense suprême pour le théâtre hein, en France, Pascal. Mais surtout, il est le fils de Michel Sardou, une des grandes voix de la chanson française. 25 albums, 350 chansons, La maladie d'amour, Les lacs du Connemara, La Java de Broadway. Davy Sardou, lui, a grandi donc au milieu de ces paillettes-là. Il en connaît tous les codes, tous les recoins. Alice Milo l'a rencontré juste avant l'une de ses représentations théâtrales.
Mon fils. Un jour, mon père m'a emmené au cinéma et on est allé sur les Champs-Élysées. Je me souviens qu'on est rentré dans la salle alors que le film avait déjà commencé, ce qui m'avait beaucoup déçu. Et on est parti avant la fin parce qu'évidemment, il ne voulait pas que le public de la salle le voie, l'embête. Et donc, c'est ça qui m'avait marqué. Mais au-delà de ça, moi, je dois dire que mon enfance a été plutôt une enfance normale. Un vrai rythme de famille, c'est-à-dire qu'on devait se retrouver tous les dimanches soirs autour du dîner familial. Mon père était très pris, bien évidemment, par sa profession. Mais je dois dire que j'ai jamais souffert du fait d'être le fils d'une vedette ou de le voir partir ou de devoir le partager, si vous voulez, avec un public. Ça n'a jamais été une souffrance, en tout cas pour moi.
Comment vous avez décidé d'être comédien? Vous venez d'une grande lignée, en plus, de gens du spectacle, hein, parce que votre père, donc, chanteur, comédien, mais avant ça, vous avez également des grands-parents qui viennent du monde du spectacle.
Oui, nous, notre famille, elle remonte à 5 générations, donc ça fait quand même un bout de temps qu'on est sur les planches. Mais si vous voulez, je ne le porte pas comme un fardeau ni comme un poids. C'est un peu comme reprendre l'entreprise de famille, bien que mon père ne m'a jamais forcé à devenir comédien ou à choisir un métier de scène. C'est quelque chose vers laquelle je suis allé naturellement et par envie, par choix. Ce n'est pas par opportunité, si vous voulez, facile que j'ai décidé de devenir comédien. Je suis devenu comédien parce que c'est le métier que j'aime. Voilà, l'avantage que j'ai eu, si vous voulez, par rapport à une famille dite normale, c'est que moi j'ai eu accès au théâtre et au plateau de cinéma et aux coulisses des concerts très jeune. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités du monde du spectacle qui, moi, m'ont fasciné. Donc évidemment, quand vous êtes gamin et que vous rencontrez Lino Ventura, ça vous marque.
Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés? Celui pour qui elle pleure et elle souffre? Celui qu'elle maudisse en priant Dieu? Es-tu sûr qu'en le voyant, elle ne briserait pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour serrer leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris?
Vous êtes un comédien reconnu, hein. Vous avez reçu un Molière en 2014 pour un second rôle, c'est ça, dans une pièce de Bill Lewis. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez été le fils de personne, vous en seriez au même point aujourd'hui?
Je pense que les débuts auraient été différents. Franchement, j'aurais pas eu les mêmes accès, tout simplement, si j'avais pas été le fils de mon père. Bien évidemment, quand vous appelez quelqu'un et que vous dites « c'est Davy Sardou à l'appareil », on va vous prendre au téléphone. Je pense qu'on va vous écouter plus facilement que si vous appelez Monsieur Duchemin et que vous appelez. Ça, c'est sûr, sûr et certain. Maintenant, un nom n'est pas suffisant. Il faut avoir quelque chose à dire et il faut avoir quelque chose à montrer. Je pense qu'un nom n'a jamais été suffisant, ou alors pour des mauvaises raisons. Quand vous avez un nom célèbre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous mettre sur scène parce que vous avez un nom célèbre et ils imaginent que ça va faire venir du monde. Ben, si vous n'êtes pas à la hauteur, voilà, vous dites au revoir au métier vite fait. Maintenant, je crois que le travail et le talent payent. Donc, par une route différente, j'imagine que je serais arrivé au même stade. Il y a des mauvais, il y a des bons, il faut savoir faire le tri. Et je pense que le public le fait très bien, le tri. S'il doit y avoir un inconvénient à être le fils d'une célébrité, c'est que vous n'avez pas le droit d'être mauvais. Si vous êtes mauvais tout de suite, ce qui arrive, parce que quand on est jeune acteur, on n'est pas forcément bon tout de suite, là, il n'y a pas de cadeau.
Et puis un jour, l'enfant grandit.
Voilà pour le témoignage de Davy Sardou, le fils du célèbre Michel Sardou, Orgorius.
Oui, alors bah, c'est intéressant parce qu'il est honnête sur le fait que effectivement, quand on a un nom connu, quand même, ça permet d'accéder assez facilement à plein de gens, d'être sur les plateaux. On le raconte aussi beaucoup dans le livre, d'être sur les plateaux de cinéma très tôt, d'apprendre des choses dès le plus jeune âge. Après, pour ce qui est du talent, je pense que le talent est vraiment une donnée subjective et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un talent voilà, formidable, mais qui, grâce à leur nom, arrivent quand même à faire carrière. C'est, voilà, et je pense que le nom... Alors après, nous, on a voulu raconter aussi dans le livre comment un système, finalement, s'est instauré dans l'industrie du cinéma, ou aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui sont produits de plus en plus. Il faut arriver à se distinguer du volume de production énorme. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à avoir des noms connus au générique. Quel que soit, je dirais, le talent, c'est des gens en devenir. Alors évidemment, il y en a qui, il y a des filles, c'est des filles d'eux qui en ont du talent, mais c'est vraiment parfois juste pour avoir le nom au générique et ça devient quelque chose de prioritaire. Mmh. C'est vrai aussi en musique. Avec la crise du disque, les majors prennent moins de risques sur des nouveaux talents. Et par contre, c'est
Charlotte
sécurisant.
Gainsbourg, c'est une valeur sûre.
C'est sécurisant de faire l'album d'un enfant qui a déjà un nom connu. Parce que en marketing, on dit bien que le nom connu rassure l'achat. Quoi. On est dans ces logiques-là.
Pascal Paradou, j'avais envie que vous soyez dans l'émission parce que c'est vrai que tout au long de l'enquête d'Aurore Gorieux, je me suis dit, mais quand on est journaliste spécialisé en culture, comment on gère ces questionnement-là, est-ce que vous vous êtes dit souvent en recevant des fils d'eux dans vos émissions mais en fait, il est dans l'émission, il est sous les flashs, mais quel talent il a réellement? Est-ce que vous êtes interrogé là-dessus?
Pas réellement, parce que dans les nombreuses années que j'ai passées à interviewer des artistes, j'ai plutôt essayé d'avoir les mères ou les pères que les fils, et j'ai couru derrière Isabelle Huppert et pas forcément derrière Lolita Chama. Et puis après, bon voilà, c'est pas simplement la notoriété, c'est pour un journaliste culturel la qualité du spectacle, le metteur en scène, le texte choisi, etc. Donc ça rentre, c'est un élément qui rentre dans un dispositif beaucoup plus large. Ce que l'on peut raconter, je pense, sur cette question des fils d'eux pour la culture, c'est ce que vous disiez, Aurore, c'est que aujourd'hui, il y a une inflation de spectacles aussi bien au cinéma. Il y a, je sais pas, 10, 12, 15 films parfois qui sortent par semaine. Il y a 300 pièces de théâtre minimum, je ne les ai pas comptées, mais peut-être 400 à Paris. Donc, il faut attirer du public. Mmh. Et les fils d'eux sont toujours plus bankable que Pascal Paradou. Mmh. Pour faire simple, ou Emmanuel Bastide, si on vous met sur les planches, encore que... Donc je pense que c'est aussi du point de vue des producteurs de spectacles au théâtre privé. On sait très bien que si on n'a pas une tête d'affiche, on ne fait rien. Et je me suis souvenu, quand on m'avait invité Emmanuel à venir à ce micro, ce qui me fait très plaisir, de l'apparition de Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, il y a à peu près une dizaine d'années. Personne n'avait jamais entendu parler de cette jeune comédienne, fort belle
parce
ailleurs.
Que là, elle a l'honnêteté de ne pas reprendre le nom de sa mère. Elle aurait pu d'ailleurs, parce que Vincent Cassel, c'est un pseudo, le pseudo du père.
C'est vrai. Alors, elle prend le visage de sa mère, ce qui est quand même absolument magnifique quand on a pour mère Romy Schneider. Mais surtout, du fait qu'elle était la fille de Romy Schneider, elle a fait la une de Paris Match, elle a fait la une de tous les journaux, et c'était... Un coup de poker extraordinaire pour le producteur de spectacle.
Alors qu'elle n'avait encore rien fait, finalement.
J'ai pas vu son spectacle à l'époque, mais elle n'avait pas fait grand-chose, non.
Et ça s'est reproduit avec Nathalie Baye et Laura Smet. Et puis après, il y a aussi les marques qui misent
Laura Smet,
sur...
qui est la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye.
Et puis, il y a les marques qui misent aussi sur les enfants très jeunes. Par exemple, Lily Rose Depp, qui est Géry Chanel. La fille de Charlotte Gainsbourg, qui est déjà aussi sur les planches. Donc après, il y a aussi la mode et les marques qui misent là-dessus, qui font des campagnes avec les fils, les familles, en fait. La famille est aussi quelque chose qui est mis en scène par les marques de luxe.
Oui, je crois que l'économie a vraiment... insister, appuyer sur ce phénomène-là, parce qu'en même temps, les dynasties de comédiens ou d'artistes, ça existe. Les Brasseurs, c'est 5 générations avec Pierre et
comme
Claude.
Dans le cirque, d'ailleurs. Comme personne ne s'offusque dans les enfants du cirque.
Ouais. D'une certaine façon, Romy Schneider, qu'on évoquait tout à l'heure, était elle-même la fille d'une comédienne allemande. Donc voilà, ça a toujours existé, mais je pense que la pression économique et le star system, l'influence des images, fait que ça a brouillé énormément les pistes.
Ouais. Alors, Cédric Rio, vous qui voyez ça plutôt avec du recul, vous n'êtes pas spécialiste du show business, mais plutôt de la reproduction des élites. Est-ce qu'il y a une spécificité avec ces milieux artistiques? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui, du fait de l'insécurité économique dont vous parliez, Pascal, est-ce qu'il y a quelque chose qui sent le soufre?
qui sont le soufre, je pense pas. Pour eux, peut-être, parce que je pense que c'est compliqué à assumer aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que finalement, ils réussissent parce qu'ils sont les fils ou les filles d'eux. Et alors qu'on est dans une société qui valorise beaucoup le mérite individuel. Et donc effectivement, du coup, ils ont tendance, ils ont besoin de justifier leur présence, finalement, aussi. Après, effectivement, ils bénéficient d'un réseau, ils bénéficient de ce nom qui leur permet d'être en tête d'affiche. Mais voilà, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'exemples de fils et de filles d'eux qui, en fait, ont complètement dévissé parce que, en raison de ce statut-là aussi, parce qu'elles n'ont pas réussi à assumer ce statut, finalement. Donc voilà, c'est un peu ambivalent. Et on retrouve également ça dans les questions plus sociales. C'est-à-dire que quand on est fils ou fille de cadre, par exemple, eh bien, on a peut-être davantage d'obligations de réussir également dans l'enseignement supérieur. Et donc voilà, il y a toute cette pression-là qui existe également.
Sur une forme sur la réussite scolaire. Mais alors là, pour le milieu du show business, ce qui peut-être permet à ces enfants d'eux, ces filles d'eux de réussir, c'est que justement, il n'y a pas besoin de diplôme dans le cinéma, dans la musique. Non ?
Oui, c'est vrai que il n'y a pas forcément de besoin de diplôme.
Enfin, je ne sais pas qui connaît
le réseau joue beaucoup. Donc forcément,
il faut un réseau.
Et ça fait aussi du cinéma, du coup, un milieu relativement fermé où c'est très difficile d'accéder. Il y a certaines personnalités du cinéma comme Luc Besson qui essayent d'ouvrir un peu de nouveaux profils de réalisateurs ou d'acteurs, mais c'est un milieu quand même assez fermé où tout fonctionne en réseau. Donc du coup, effectivement, le diplôme ne joue pas beaucoup.
Et c'est très injuste, injuste pour celles et ceux qui ne sont pas fils ou filles d'eux, justement. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut
réussir peut-être plus par des voies plus classiques, non ? Le conservatoire, je ne sais pas. Laura Smet, qui connaît le parcours universitaire de Laura Smet.
Moi pas.
Alors on s'étendra pas.
Paradoxalement, à ce phénomène des fils et des filles d'eux, il y a dans le cinéma français, en tout cas, et même européen, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, l'apparition aussi de comédiens non professionnels qui sont vraiment hissés au sommet. Le dernier film de Jacques Audiard, ce sont des non professionnels.
Avec du casting sauvage.
Voilà, les Dardennes ont fait tout leur cinéma à partir d'anonymes.
Ça devient un contre-pied marketing, du coup. Sans le dire, parce qu'il faut jamais cracher dans la soupe dans ce milieu quand même. Non,
c'est peut-être un contre-pied marketing, c'est aussi une recherche vers un autre type de cinéma, un autre type d'incarnation aussi à l'écran, parce que c'est plus compliqué quand on est la fille, de Isabelle Huppert, de jouer une pauvre paumée. Mais aussi, ça autorise tout le monde à être comédien ou à se rêver comédien.
Être un fils ou une fille d'eux, est-ce que ça donne du talent ou surtout des privilèges ? Appelez-nous les voisins, les voisines. 33 1 84 22 71 71.
Mmh. 7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Bon, c'est pas du tout une programmation musicale habituelle chez 7 milliards de voisins. Je pense qu'Aurore Gorius, vous avez reconnu le générique.
Oui, c'est le générique de la série 10%, c'est ça ?
C'est ça, dont le premier épisode est sorti, est paru hier sur France 2.
Et ça
2.
A fait un succès d'audience d'ailleurs.
Donc feuilleton télé. Ouais. Et en
on
plus...
se demande pourquoi.
Et donc, on va le dire.
C'est vraiment bien, c'est une bonne série, vraiment.
Bon, d'accord, mais dedans, il y avait qui pour ce premier épisode ?
Alors, dedans, pour ce premier épisode, il y avait...
Julie...
Alors, il y a Cécile de France.
Il y a Cécile de France.
La particularité, c'est que ce sont donc des stars qui incarnent leur propre rôle, puisque c'est sur les coulisses du cinéma. Oui. Et il y a bien un épisode qui est prévu
Mais il n'est pas encore passé.
Hier
soir. Il y a un épisode qui est prévu avec Nathalie Baye et Laura Smet. Un épisode notamment qui met en scène une fille et sa mère. Et d'ailleurs, c'est un épisode qui a été assez compliqué à monter et à faire, parce que beaucoup de pères-fils ou de mères-filles ont refusé
de jouer
leur propre histoire, puisque le principe de la série, c'est des guests qui incarnent, enfin qui sont eux-mêmes à l'écran avec un ton humoristique et décalé, et voilà, enfin c'est de la satire en fait un petit peu.
Ouais.
Et là, les acteurs ont beaucoup d'acteurs ou d'actrices ont refusé de jouer dans un épisode qui met en scène justement la relation entre parents enfants.
Ouais. Il faut préciser qu'il y a aussi Julie Gayet qui est sur toutes les affiches dans Paris actuellement et tient comme par hasard
la conjointe du président
Nouvel
de la République. Alors vous allez plus loin que le talent qui se transmet et puis des noms. Les récompenses aussi seraient-elles truquées ? Vous insinuez cela, Aurore Gorius. On va en parler, bien sûr, les récompenses du cinéma, du théâtre. On va en parler juste après le flash dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins, les voisines, sur RFI.
Forêt, Visa
Voisine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons des fils et des filles d'eux aujourd'hui. Quel privilège pour ces enfants nés avec un nom. Alors ça touche de nombreux milieux professionnels, de l'élite française, la politique, le business. Mais c'est vrai, ça touche beaucoup les milieux artistiques, cinéma, musique. Bref, là où l'argent s'investit sur des noms de famille, des marques. Bankable, comme vous le disiez, Pascal Paradou, puisque vous avez une longue carrière de journaliste culturel sur RFI. Bankable, comme on dit en anglais. Je précise, parce que sinon, c'est pas très bien vu hein, sur notre antenne. Et chez vous, les voisins, les voisines, quel privilège pour les fils d'eux, en politique ou ailleurs. D'ailleurs, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Aurore Gorius, vous publiez cette enquête « Fils et filles d'eux », enquête sur la nouvelle aristocratie française, donc sans particules, hein, ça va de soi. Et Cédric Rio, vous appartenez à l'Observatoire des inégalités. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Justice sociale et génération. Pourquoi et comment transmettre un monde plus juste ». Écoutez tout de suite le témoignage de ce père de Guy Bedos, parle de son fils Nicolas ou l'amour filial.
J'en viens même à en avoir honte d'avoir des enfants qui réussissent, qui sont doués, qui travaillent, alors que le pays est, notamment pour ce qui est de sa jeunesse, tellement mal en point. Je ne les ai jamais pistonnés. J'ai joué deux pièces de mon fils. Il a commencé à écrire, il avait 14 ans. Mais j'ai joué cette pièce parce qu'elle me plaisait, parce que le personnage me plaisait et que je trouvais qu'elle était très bien écrite, point. J'ai pas joué ça pour pistonner mon fils, non.
Voilà, je les ai jamais pistonnés, j'ai joué deux pièces de mon fils. C'est d'une honnêteté totale, en fait, désarçonnante, mais...
Mais c'est peut-être vrai en l'occurrence, c'est peut-être vrai, mais c'est vrai que...
Mais la pièce n'est pas arrivée anonymement par la poste dans sa boîte aux lettres.
Et puis inconsciemment, on transmet des valeurs, on transmet des envies, on transmet un réseau, et voilà, ça facilite les choses.
Tous ces gens-là sont d'abord des hommes et des femmes faillibles, n'est-ce pas Pascal Paradou?
Oui, et puis quand tout le milieu s'invite à la maison, je pense que c'est plus simple d'échanger des 06.
Bah, bien sûr.
Alors justement, juste avant le flash, on parlait des récompenses dans le milieu artistique. Il y a des récompenses qui sont censées être de la vraie méritocratie, hein, à commencer par les César qui récompense les meilleurs films.
Et c'est vrai qu'on a vu depuis les années 90, les Césars récompensaient beaucoup d'enfants, de fils et de filles d'eux, d'enfants d'eux. Il y en a tous les ans qui sont nominés et il y a des gens du métier qui nous disaient mais de toute manière, il y a plein de gens qui votent au César pour délivrer les récompenses et qui ne regardent pas les films, donc ils votent sur un nom. Voilà, donc ça nous a été dit. Après, ils sont aussi sélectionnés au départ et en 2014, il y en avait 6 qui étaient sélectionnés. Il y en a parfois dans la catégorie Jeune Espoir, il y en a 3 ou 4. C'est arrivé aussi. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup récompensés, beaucoup nominés et aussi récompensés très tôt dans leur carrière. Lou Doyon a été récompensé très tôt par une Victoire de la Musique, par un César. Donc, Izzy Higelin aussi. C'est des gens qui sont récompensés très tôt par le métier. Donc, ça joue aussi dans la reconnaissance. Voilà.
Dans d'autres types de jurys, on retrouve aussi carrément des formes de consanguinité très fortes où les parents sont dans les jurys. Vous semblez dire que le système, quand même, fonctionne, pour ce qui est des récompenses, fonctionne largement en circuit fermé aussi.
Oui.
Que les parents ont de l'influence sur les jurys, etc.
En tout cas, pour les Césars, ça peut jouer. Après, dans d'autres domaines, sur l'éducation, c'est vrai que les parents transmettent aussi des recettes pour réussir dans le parcours scolaire, mais c'est vrai que en éducation, dans le parcours éducatif, les parents orientent les enfants dès le plus jeune âge vers les bonnes écoles, les écoles de l'entre-soi parisien, l'école alsacienne et compagnie. Et c'est vrai que là déjà se décident beaucoup de choses, des réseaux se mettent en place très tôt dans le parcours des enfants.
Bon, alors on l'a dit depuis le début de l'émission, certes dans le show business comme on dit, la consanguinité, la reproduction, les fils et les filles d'eux sont très très nombreux. J'ai relevé une liste là que je pourrais lire à l'antenne d'ailleurs, mais qui est infinie.
Ouais,
enfin, c'est vraiment fou à ce point-là. Et c'est l'intérêt de votre enquête, c'est de révéler cette ampleur-là dont on n'est pas forcément conscient. Mais il faut parler bien sûr de la politique, des milieux économiques. Nous laissons la parole à des voisins qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Abdelkrim. Bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Voilà, ben non, c'est nous qui vous écoutons, surtout Abdelkrim, on est ravis de vous accueillir dans l'émission. Vous portez un nom célèbre au Tchad, racontez-nous.
Oui, je porte le nom Fokia, et c'est un nom des grands-pères.
Donc ce nom, au début, je me posais la question pourquoi porter ce nom. Je ne voulais pas, mais c'est après avoir eu mon bac que j'ai compris que le nom était important pour moi. Et là, jusque-là, j'utilise ça m'avantage. Quand j'avais eu le bac, pour faire le papier, entrer à l'université, vous savez, avec la lanterne administrative ou ça, ce n'était pas facile. Mais là où je viens, quand c'est le nom Foxia qu'on écoute, tout de suite, on est paniqué. On fait passer le papier vite parce que là, ça vient d'une grande famille. C'est une personne qui vient d'une grande famille, tout ça. Et ça m'a facilité. Jusqu'à l'université, même certains de mes anciens me connaissent avec ce nom, Foxia. Ils disent, mais là, c'est mon enfant. Tout ça, ça me permet d'être connu. Et aujourd'hui, je suis plus connu sous le nom Foxia que le nom Abdelkirim parce que je l'utilise pour que ça puisse m'aider, en fait.
Alors, vous n'avez pas précisé que Foxia, c'est aussi... Enfin, c'est le nom de votre grand-père. Hein. Vous descendez d'une grande famille qui est un... Votre grand-père était un ancien combattant. Et clairement, ça vous a facilité l'inscription à l'université. Vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Est-ce que parfois, vous vous interrogez sur votre réussite?
Oui. Je m'interroge, mais c'est que j'ai travaillé, mais avec ce pays, c'est pas facile d'entrer à l'université, donc il faut trouver un autre moyen, et c'est juste ça, sinon moi je sais que...
Oui, finalement, vous avez trouvé ce moyen-là, donc vous avez saisi cette opportunité.
Oui.
Et alors vous tout seul, sans votre nom, alors qu'est-ce que vous valez, Abdelkrim ?
Sans mon nom, je pouvais avoir le bac, mais je ne savais pas, je ne sais pas est-ce que je peux entrer à l'université ou pas.
Ah, oui.
C'est là le problème, mais
d'accord.
Oui, avec ce nom, j'ai eu la chance, mes papiers étaient facilités, j'étais entré à l'université et j'ai connu des centaines de mes anciens qui me reconnaissent, qui causaient bien avec moi, qui me respectaient et content.
Eh ben merci en tout cas de ce témoignage extrêmement honnête. Hein. Les fils et les filles d'eux dans le cinéma en France n'ont pas forcément la même honnêteté que vous, Abdelkrim. Très bonne journée, N'Djamena. On accueille Christian qui est à Brazzaville, au Congo Brazza. Bonjour Christian.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Et bonjour aussi les voisins et les voisines. Oui, moi je veux parler de l'une des filles d'eux. Donc il s'agit dans notre cas d'une des filles qui nous a marqué par son comportement exemplaire surtout. Donc il s'agit de Feu Edith Lucie Sassou Nguesso, qui est devenue par la suite l'épouse de l'ancien président Feu Omar Bongo, ancien président du Gabon. Donc elle a fait ses études primaires et secondaires, notamment son collège et son lycée, dans les universités publiques de Brazzaville, comme les enfants de Monsieur Tout-le-Monde, à côté des enfants de Tout-le-Monde. Et elle s'est comportée d'une façon exemplaire. Elle a vécu normalement, pas comme étant fille du président, alors que son papa, à l'époque, était déjà président de la République. Et après son bac, elle a intégré la faculté de médecine ici même à Brazzaville, donc ensemble une fois de plus avec tous les étudiants, normalement avec tout le monde, alors que ça aurait été d'autres filles. Elle devrait aller fréquenter dans les universités prestigieuses de l'Occident, mais elle, elle a fait normalement ses études dans le pays.
Donc une vie tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce qu'elle épouse quand même un président du Gabon.
Oui, ça c'est quand même une chance pour elle aussi que nous pouvons élever, puisque ça fait partie de la vie, la chance aussi, Emmanuel.
Merci pour ce témoignage, Christian. Ça nous amène évidemment à parler des fils et des filles d'eux en politique. Évidemment, alors je ne sais pas si vous avez eu le sentiment, Aurore Gorius, que les fils et les filles d'eux en politique étaient quand même, le poids était moins écrasant que dans les milieux artistiques.
Et il y en a beaucoup, en France, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dynasties locales, c'est-à-dire localement des circonscriptions qui se transmettent de génération en génération. Ça s'est beaucoup vu sur 4-5 générations. Et d'ailleurs, on montre que les parlementaires, il y a des études qui montrent que les parlementaires qui restent le plus longtemps à l'Assemblée sont ceux qui, souvent, la chance de rester longtemps à l'Assemblée est corrélée avec le fait d'avoir une famille qui est déjà députée. Donc vraiment, il y a des baronnies locales. Et il y a beaucoup de fils et de filles d'eux qui reprennent parfois la mairie, parfois la circonscription.
Je pensais que vous alliez d'emblée nous parler du Front National.
Et là, parce que en fait, les partis, là, je pense qu'il y a vraiment le rôle des partis est central. C'est-à-dire que les partis investissent aussi beaucoup ses fils et ses filles d'eux, parce qu'on joue aussi, le nom est aussi un patrimoine qui est important en politique. Il est reconnu immédiatement des électeurs. Donc les partis ont une responsabilité là-dedans, de ne pas aller chercher des candidats, de ne pas suffisamment les former, des candidats qui soient pas du sérail, qui ne soient pas forcément des fils et des filles d'eux. Et là, les partis ne jouent pas leur rôle. Ils vont souvent vers la facilité et pareil, jouent sur un nom, sur un patronyme célèbre.
Et puis c'est une façon d'oublier aussi le nom du parti, parce que c'est le parti de Marine Le Pen.
Alors dans le cas du FN, bien sûr.
C'est la famille Sarkozy et on adhère plus au sarkozisme qu'au mouvement Les Républicains, etc. Donc c'est dans une période de décrédibilisation des structures partisanes.
Donc il faut rajouter un peu de showbiz finalement, un peu de showbiz,
un peu d'identification, un peu...
Et la famille humanise les politiques. Et la famille humanise. D'ailleurs, les politiques ont beaucoup mis en scène leur famille, leurs enfants, depuis Valéry Giscard d'Estaing. Ils se photographient par Paris Match régulièrement avec leurs enfants.
Jacques Chirac avec sa fille Claude, etc.
Avec son petit-fils aussi,
Le dernier fils Sarkozy dans Paris Match cette
Louis
semaine.
Sarkozy.
Louis, 18 ans, et déjà 6 pages.
Oui, alors d'ailleurs, dans les fils et les filles d'eux en politique, qui ne font pas encore forcément de la politique, justement, vous vous citez alors ces gazouillis en rond entre Louis Sarkozy, 16 ans, qui croise le fer depuis son école militaire en Pennsylvanie, écrivez-vous, avec Léonard Trierweiler, je pense que tout le monde a compris, 18 ans, apprenti cuisinier à l'école française de gastronomie Ferrandi, une très bonne école, je précise. Léonard Trierweiler qui lance « C'est Tata Nadine Morano qui écrit tes tweets pour être si arrogant et nul en français, Sarko Junior, point d'interrogation ». Réplique de Louis Sarkozy, au moins c'est pas ta mère, on sait tous qu'elle a peu d'expérience dans le sujet. Voilà.
Ils sont aimables, ces bambins.
C'est extraordinaire, parce que ces enfants sont proches de leurs parents, surtout pour à ce point-là... être investi dans la vie de leurs parents, c'est
étonnant. Mais en fait, la politique, on en a rencontré d'ailleurs des enfants de politique qui ne veulent pas apparaître parce que la politique, c'est extrêmement lourd à porter. On fait réagir aussi le fils de Michel Rocard, Francis Rocard, qui lui est astronome et qui avait eu des engagements politiques et qui nous a dit clairement, j'étais intéressé par la politique, mais j'ai pas voulu y aller parce que le poids du père est énorme à porter. Et il dit aussi, heureusement que j'ai eu un père qui a été honnête en politique, parce que quand le père n'est pas honnête, c'est encore plus lourd à porter. Parce qu'il y a toujours souvent des casseroles en politique. Donc la politique, ça écrase littéralement. Et pour un fils ou une fille d'eux, c'est très difficile d'y échapper, en fait.
Cédric Rio, en même temps, est-ce que tout cela s'est un petit peu assaini ces dernières années ou pas? Parce qu'on peut se dire qu'avec la mondialisation, avec la culture anglo-saxonne, de la transparence, de l'équité, est-ce qu'on a progressé en France ou est-ce qu'on en est toujours au même point? On peut se dire, dans le recrutement dans les filières d'études sélectives, aujourd'hui, ça se fait via l'informatique, par exemple. Autrefois, en France, ça se faisait via le piston.
En théorie, tout est accessible à tout le monde. Mais on voit dans les faits que si on prend l'école normale, l'administration par exemple, il y a beaucoup de fils et de filles d'eux. Il n'y a pas de fils ouvriers.
Les gens qui réussissent le concours l'ont réussi.
Bien sûr, mais les parents conseillent les enfants, les parents donnent des astuces, les parents ont un réseau et ont aussi le... Comment dire?
Oui, mais c'est pas la même chose.
On met les gens au musée, etc. C'est pas la même chose, mais même si évidemment que ces fils et les filles d'eux réussissent aussi des concours, réussissent aussi dans la vie, c'est pas le problème, mais la difficulté, c'est que quand on n'est pas fils ou fille d'eux, on ne bénéficie pas d'un ensemble de choses telles que le réseau, telles que des connaissances, telles que un accès au musée quand on est petit, voilà, tout un ensemble de choses qui font que finalement, il y a une injustice qui est liée à la naissance, tout simplement. Et donc, en France, on l'observe réellement.
Mais c'est une injustice sociale. C'est que on appartient à un milieu qui permet...
Ça, c'est une injustice sociale.
Mais on peut pas
sociale. Après, il y a aussi... Il ne faut pas confondre avec le népotisme pur et simple qui correspond, par exemple, à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec son fils en essayant de le placer
à la tête de l'EHPAD.
Et là, ça a été extrêmement mal perçu par les Français. C'était une erreur du quinquennat parce qu'il a vraiment...
Mais
ça a été mal perçu.
Est-ce qu'en cinéma, on n'est pas dans des phénomènes de népotisme au contraire de ceux qui réussissent le concours de Normale Sup? On ne peut pas parler de népotisme à ce moment-là.
C'est pas du népotisme, mais pour Normale Sup, pour Sciences Po, mais c'est encore une fois, c'est une vraie forme d'injustice sociale. Et puis en même temps,
on peut pas mettre les deux phénomènes dans le même sac, non? Quand même, quand on est pris sur un casting, ça se complète.
Et du coup, c'est vrai que la reproduction sociale est très forte.
Il y a cet effet-là, mais il faut peut-être que l'on s'interroge nous en tant que public, en tant que téléspectateur, en tant qu'amateur de théâtre ou aimant écouter des disques ou aller au concert, de la la fascination qu'exercent les fils d'eux. Parce que finalement, enfin, je vous l'avoue, je sors d'une réunion, j'ai feuilleté Paris Match, j'ai lu l'article sur le fils Sarkozy. Mmh. Parce
que voilà, je suis... la ressemblance physique.
Et je recherche la ressemblance. Voilà, donc forcément, voilà, on a une fascination, nous, à l'heure de Facebook, etc. Et Emmanuel, vous citiez tout à l'heure les tweets du fils Treuerwiller avec le fils Sarkozy. À l'heure où tout le monde peut être une star sur Facebook, être suivi par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, forcément, on va plutôt aller chercher le fils Sarkozy, la fille Mitterrand, même si elle s'appelle Pinjot, la fille Gainsbourg ou le fils Delon.
Et puis, pardon, mais en fait, les médias s'y intéressent beaucoup également.
Bien sûr.
Très facile.
Notamment
très facile.
La presse people. Hein. Notamment la presse people qui les met en scène largement et y compris d'ailleurs en politique maintenant. Les politiques sont devenus des people comme les autres et on met en scène, on photographie leur famille, on est à la recherche effectivement du petit scoop auprès du fils d'eux. C'est important. Ça.
Être un fils ou une fille d'eux, quel privilège. Appelez-nous pour en parler en direct. 33 1 84 22 71 71. Une petite coupure avec la PME des Chédides.
Si j'étais le feu, je serais l'eau, je serais l'air, moi la terre. Au-delà du jeu de l'ego, la vie à l'envers, la lumière.
Fort, c'est Louis, Mathieu, Joseph et Anna Chédid sur scène. Voilà, au moins là, il n'y a pas d'inconnu.
Oui, c'est vrai que Mathieu Chédid fait partie des gens qui ont eu une carrière. Enfin, il s'est fait un nom lui par lui-même et c'est un très bon guitariste, etc. Mais maintenant, c'est vrai qu'il tourne en famille. Sa dernière tournée se fait en famille. Ses musiciens sont son frère et sa sœur. Il tourne avec son père aussi. Donc là,
Il avait au départ des musiciens qui venaient entre guillemets de nulle part et il ne travaille plus avec eux. Il ne travaille qu'avec ses frères et sœurs.
Aujourd'hui, il a fait le choix de travailler en famille. Voilà. Mais il a du mal à en parler vraiment.
Donc
de dire
quoi
pourquoi,
la réalité, c'est quoi? Il a viré ses musiciens pour faire travailler ses frères et sœurs? Ce serait ça qu'il faudrait dire?
On ne garde pas forcément des musiciens tout le long de sa carrière non plus. Hein. Donc on peut évidemment évoluer, choisir de travailler avec d'autres personnes. Mais le fait est qu'il a choisi de s'entourer de sa famille. Et on le voit tourner avec sa famille, les affiches dans Paris où il pose avec sa famille. Voilà.
Et il faut dire qu'il est le petit-fils d'André Chédid, grande poétesse d'origine libanaise qui a écrit des textes pour son fils et son petit-fils. Donc il y a quand même aussi le sentiment, je ne crois pas aux familles de génie, mais il y a quand même quelque chose comme un terreau dans certaines de ces familles.
Un facteur génétique, là ?
Non, génétique, j'y crois pas, mais en tout cas un effet de culture, d'échange, de densité de relations et d'intérêts qui produisent quelque chose.
Mais quand depuis tout petit on baigne dans cet univers-là, c'est évidemment... moi, j'aime beaucoup Mathieu Chédid par ailleurs, mais je veux dire, il a vraiment
bénéficié
de beaucoup d'éléments.
Aurore,
avez-vous travaillé sur sur les truands? Est-ce qu'il y a des fils d'eux chez les truands, par exemple?
C'est une bonne question. Non, non, on s'est concentré sur les lieux de pouvoir. Mais non, mais dans les familles, il y a plein de choses qui se transmettent. Hein. Mais c'est vrai que là, par exemple, la famille Chédid, c'est intéressant aussi parce que Mathieu Chédid, qui a grandi avec les enfants Voulzy, les enfants Souchon, donc d'autres chanteurs français très connus, on leur a proposé à 14 ans, ils avaient 14 ans, de faire un album. Donc derrière, vraiment, on revient toujours à cette idée que l'industrie favorise.
Sauf que dans votre livre, vous ne faites pas que décrire les mécanismes. Vous dites aussi à quelque chose qui sent le renfermer dans la société française.
Oui,
de façon générale. Et c'est vrai, Criot, vous dites la même chose aussi, non?
Oui, oui, oui. Après,
on est dans une société qui tourne en rond.
Bah, oui, disons, il faut quand même rappeler un truc très important, c'est que même si on n'est pas issu du sérail, entre guillemets, on peut quand même, évidemment, évoluer socialement. C'est un élément qu'il faut quand même rappeler. Mais effectivement, quand on a des parents qui font des études supérieures, on fait plus facilement des études supérieures. Lorsque son papa est magicien, on est plus facilement musicien. Il faut aussi...
Alors, je redonne le numéro de téléphone parce qu'on a un fils d'eux qui nous appelle. Et donc, on va faire comme dans la vraie vie, on va privilégier les enfants d'eux. Donc, 33-1-84-22-71-71. Bonjour Jean, vous êtes à Pointe-Noire au Congo-Brazza.
Oui, bonjour Emmanuel. Donc, je suis Jean, je suis à Pointe-Noire.
Oui.
Alors, moi, dans mon cas, le problème, c'est que donc, je suis fils... d'un ingénieur du ministère de l'économie forestière du Congo. Mmh. Et j'avoue que par rapport à votre émission, c'est pas évident pour les enfants qui portent certains noms de pouvoir s'en sortir dans la vie, parce qu'en fait ils portent le poids de la carrière paternelle ou maternelle, comme vous voulez. Et dans mon cas, ce qui a été difficile, c'est que mon père étant ingénieur, donc il a eu une grande carrière internationale, il a travaillé à la FAO, et puis il a été directeur technique, puis directeur général de sa société. Alors, ce qui a été difficile pour moi, en fait, c'est de pouvoir, comme on dit chez nous, ne pas faire honte au nom paternel.
Ah oui, c'est ça, oui. Donc, en fait, cette pression de réussir, vous aussi, tout comme votre père. Mais en revanche, vous n'avez pas ressenti la pression du soupçon. Tu réussis parce que tu es le fils de ton père et ton père est connu.
Non, parce que effectivement, moi dans mon cas, lorsque j'ai fini mes études, quand je suis rentré, en fait, quelque part, mon père il a été tenté de vouloir m'embaucher dans son entreprise.
Ah oui.
Et que j'ai refusé.
Ah, d'accord.
Parce que je lui ai dit, si je viens là, on ne verra pas mon travail, mais on verra que je suis ton fils.
Vous avez eu envie de réussir par vous-même.
Voilà, j'ai dit ça ne passe pas.
Merci beaucoup, Jean, de nous avoir appelé. Alors, ceci dit, dans le monde du cinéma, on découvre dans votre enquête, Horror Gorius, qu'il y a des hommes et des femmes, de véritables mamans lionnes qui se démènent pour faire réussir leurs enfants en dépit parfois de leur talent médiocre. Je ne sais pas qui vous allez nous citer. Moi, j'ai retenu le cas de Nicole Garcia, par exemple.
Oui, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que les parents, parfois, se mettent...
écrivent pour leurs enfants.
Voilà, mettent en scène leurs propres enfants, parfois aussi font jouer leur agent pour trouver des rôles à leur enfant. Voilà, donc ça existe, évidemment. Et je pense que c'est un réflexe assez humain, quand on est parent, d'aider les enfants. Mais du coup, ça favorise aussi les enfants d'eux, les enfants bien-nés, ça les favorise.
Mais Nicole Garcia a un fils qui est metteur en scène, qui s'appelle Bélier Garcia, qui est un formidable metteur en scène qui n'a rien à prouver à sa mère.
Elle a aussi un autre fils qui s'appelle Thomas Rochefort et qu'elle a fait jouer dans ses films. Voilà, donc, il y a des exemples comme ça, effectivement, où les parents vraiment aident, donnent des coups de pouce vraiment importants pour la carrière des parents. Et pour revenir aussi à ce que disait pour la carrière des enfants, et pour revenir au dernier témoignage, c'est vrai aussi, ou en tout cas, ce qu'on disait sur l'ambivalence, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué parce que, par exemple, les chefs d'entreprise en France qui essayent d'imposer leurs enfants à la tête des grosses boîtes du CAC 40, Lagardère, Arnaud Pinault, souvent leur font faire un parcours du combattant à l'intérieur des entreprises pour essayer justement de mettre en scène une certaine méritocratie, pour prouver qu'ils ont du mérite, qu'ils y arrivent, qu'ils sont compétents. Donc c'est compliqué parce qu'à la fois on essaye d'imposer des enfants, mais en même temps on se méfie du réflexe ou du regard des gens qui pourraient être justement, qui pourraient attendre que ces enfants d'eux fassent leurs preuves. Donc ça devient quelque chose de compliqué parce que la société française est à la fois fascinée par les enfants d'eux, comme on disait, et ça se voit dans la presse, et on est tous lecteurs ou spectateurs de ça. Et en même temps, il y a un désir de méritocratie important aussi, donc c'est très ambivalent.
Et puis, sur le modèle, enfin, en économie, je pense qu'il y a une idée aussi de la famille, du chef d'entreprise avec sa famille, de la dynastie, qui est très 19e siècle et qui perdure aujourd'hui au 21e siècle.
Et sous l'angle aussi de ça permet de préserver l'activité de l'entreprise et de préserver les emplois. Sauf quand le fils d'eux n'est pas compétent, et ça arrive. Et pourtant, il arrive au sommet de l'entreprise et il n'est pas compétent. Dans ces cas-là, c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur de casting et ça ne devrait pas arriver. Donc, c'est là où on est à la limite du népotisme, en fait. Voilà.
On peut se poser la question, quelle place pour les nouveaux entrants dans tous ces systèmes, Cédric Rio?
C'est ça, c'est forcément très injuste pour eux, évidemment. Du point de vue de l'extérieur, c'est très, très injuste. Après, il n'y a pas vraiment de solution, sauf peut-être de réduire un peu notre le regard très positif que nous avons finalement sur ces dynasties, c'est-à-dire que en même temps on les critique
les
un peu
et
en même temps
on a eu la Révolution française, mais ça ne scandalise personne, hein, tout ce qu'on raconte en fait. Les Français marchent tout à fait dans cette culture-là, non?
Il y a de la fascination, et puis après, on peut être fils d'eux, il faut bien avoir un métier.
Oui, après, une vraie tolérance hein, pour tolérer tout cela.
Jusqu'à un certain point.
Ouais. Pour tout savoir de coulisses de la filiation Payette, en tout cas, il faut vous lire Aurore Gorius, fils et fille d'eux, enquête sur la nouvelle aristocratie française. Cédric Rio de l'Observatoire des inégalités, vous publiez Justice sociale et génération, pourquoi et comment transmettre un monde plus juste aux éditions Presse universitaire de Rennes. Et pour vous, c'est à la découverte. D'ailleurs, Gorius. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins et aux auditeurs. Demain, 7 milliards de voisins, dernière rediffusion de l'été avec un débat éducation comme chaque vendredi. L'éducation est le tout payant. Cours privés, stages intensifs, séjours linguistiques. Peut-on encore réussir sans argent? Ou comment l'argent dynamite le système éducatif? C'est demain chez 7 milliards de voisins sur RFI.